Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne dans les grandes transformations de ta vie de freelance pour t'aider à te poser les bonnes questions et passer à l'action pour une activité qui te correspond davantage et qui se développe comme tu le souhaites. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Samuel Durand sur le podcast. Et pour ceux qui ne connaissent pas Samuel, il est freelance depuis 3 ans maintenant. Il a également créé une marque de vêtements, alors qu'il est à ce jour encore officiellement étudiant en école de commerce. Mais me limiter à cela pour le présenter passerait à côté de l'essentiel. En 2019, pendant son année de césure, Samuel est parti pendant 6 mois pour faire un tour du monde à la découverte des entreprises et des acteurs du monde du freelancing. Et dans le cadre de ce projet d'exploration, il a pris la parole, créé beaucoup de contenu dans des grands médias comme le Harvard Business Review, Forbes, et il a surtout produit un rapport de 250 pages pour étudier la manière dont les entreprises peuvent mieux s'adapter à l'évolution de l'économie freelance. C'est ce qu'il a appelé le projet Going Freelance. Et depuis ça, depuis la publication de ce rapport, il est également devenu du coup conférencier sur ce sujet-là, et il a pu prendre la parole dans des grandes entreprises comme Hermès, pour ne citer qu'eux. Et du coup, je le répète, Samuel est encore officiellement à ce jour étudiant en école de commerce. Dans cet épisode, du coup, on a eu beaucoup de choses à se dire. On a commencé par prendre de la hauteur sur les grands enjeux pour les entreprises face à l'avènement du freelancing et comment ça pourrait évoluer dans les prochains mois, les prochaines années suite à la crise qu'on vient de connaître. On a parlé aussi de l'importance pour un indépendant de s'extraire de la masse pour réussir à s'attirer de meilleures opportunités. Et enfin aussi, des manières dont nous pouvons, nous aussi, à notre échelle, en tant qu'indépendants, en tant qu'individus, accélérer la transition des entreprises vers une meilleure intégration des freelances dans leur process de travail. Épisode très riche. Du coup, je vous laisse tout de suite vous plonger dans l'épisode. Mais juste avant, un tout petit mot pour vous demander pardon des quelques petits couacs de son que vous entendrez à quelques endroits dans l'épisode. C'est un épisode enregistré à distance et encore une fois, il y a eu quelques tout petits soucis techniques pour l'enregistrement. Et malgré mon attention à la qualité que vous savez que j'ai du mal à tout rattraper au montage. Donc voilà, je vous rassure, c'est vraiment minime, mais je me devais de vous prévenir quand même. Sur ce, on se retrouve à la fin, et je vous laisse écouter ma conversation avec Samuel. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast, Samuel.
Merci Thomas.
Très content qu'on puisse échanger ensemble. On a eu un peu des petits soucis techniques, mais on y arrive, parce qu'encore une fois, c'est un épisode à distance. Confinement et suite du confinement oblige.
Et puis on a tellement d'outils à notre disposition qu'en fait on aurait pu encore continuer comme ça pendant des heures jusqu'à trouver le bon, on se serait pas arrêté en route.
C'est clair, on a presque fait tout ce que propose Internet sur les outils de call à distance. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler un petit peu dans l'épisode de tout ça, ce qui est un sujet que j'aimerais bien traiter avec toi sur le jour d'après ou le monde d'après ou tous ces trucs-là dont les gens parlent en ce moment autour de ce qui se passe maintenant et du rôle du freelancing là-dedans, parce que je pense que t'as plein de réflexions à ce sujet. Mais avant qu'on se lance dans ça concrètement, est-ce que tu peux nous partager, Samuel, comment et surtout pourquoi tu es devenu freelance ou indépendant? Je sais pas quel est le mot qui te parle le plus.
C'est arrivé un petit peu, on va dire, par inadvertance. Je me suis lancé en freelance quand j'étais en première année en école de commerce, après avoir fait 2 années de prépa. Et j'avais déjà à ce moment-là connu une première expérience entrepreneuriale. J'étais en plein milieu de création. C'était une société qui faisait une marque de vêtements. Et donc, j'avais appris plusieurs choses, et notamment en termes de communication. J'avais fait déjà le lancement d'une marque, l'aventure Instagram, créer un petit site internet, créer une étude de marché, des stratégies d'influence marketing. À l'époque, c'était le début. Et du coup, je me suis dit que c'était des compétences qui pouvaient être monétisées. Et c'est le bon moment qu'a choisi Crème de la Crème pour venir dans mon école nous expliquer qu'on pouvait gagner de l'argent en étant dans notre canapé. Moi, j'ai vu ça, comme une opportunité de gagner de l'argent de façon plus sympa qu'un job étudiant. Et surtout, le plus important, c'était surtout le fait de pouvoir se former. Me dire que j'allais aller beaucoup plus loin avec des clients qui allaient être variés, des missions qui allaient me permettre de monter en compétences au fur et à mesure. Et moi, je me rappelle très bien surtout d'une mission qui a été décisive, parce qu'au début, j'ai fait quelques missions qui étaient en dessous de 1000 euros. Et la première mission que j'ai vendue, tu vois, qui était au-dessus de 1000 euros, c'était une étude de marché. J'avais jamais fait d'étude de marché avant. Et je me suis dit, mais ça m'intéresserait quand même de savoir faire. Parce qu'en fait, quoi que je fasse plus tard, savoir découvrir un marché, le traiter, bien l'adresser, ça sera toujours utile. Et avant d'avoir une mission pour ça, j'ai pas vraiment de raison de me bouger pour apprendre à faire une étude de marché. Et à partir du moment où tu signes, tu dis maintenant c'est bon, maintenant j'ai 40 jours.
J'ai plus le choix, quoi.
Il y a plus le choix, donc c'est la meilleure façon de se former. Et en fait, j'ai fait une vingtaine de missions pendant mes 2 premières années d'école, et c'est ça qui véritablement m'a permis de me lancer. Et je le voyais vraiment comme un moyen de se former, de monter en compétences sur des sujets variés, des sujets que je maîtrisais un petit peu et où je voulais aller beaucoup plus loin.
Ouais, ben c'est un peu l'angle dont on a discuté avec Brice quand il est passé sur le podcast récemment, parce que c'est un peu la même expérience que lui et moi ont eu. On s'est lancé pendant nos études et c'est vrai que c'est un vrai tremplin en fait. Et j'aime bien ce que tu dis sur le fait de te former. Moi aussi, c'est un peu la vision que j'avais au début quand je me lançais. C'est ok, si t'as vendu un truc, t'as plus le choix que de savoir le faire, donc t'es face au mur et t'es obligé d'apprendre. Je me souviens, je l'avais fait notamment sur des sujets de création de site web, et je passais des nuits à aller trouver des solutions pour des trucs que je savais pas encore faire. Bon, j'espère que mes clients de l'époque me le pardonneront, mais ils étaient satisfaits à la fin quand même.
Exactement, ils étaient satisfaits parce qu'en fait, même si au départ, sur ta première mission, ton site web, tu vas mettre des heures et tu vas mettre 10 fois plus de temps qu'un professionnel qui a l'habitude de le faire, tu vas mettre toute l'énergie en fait et toute ton envie dans ce projet-là. Si tu vas arriver avec un livrable qui sera formidable, et en fait, si tu le fais 1 fois, 2 fois, 10 fois, tu finiras par le maîtriser comme un professionnel, et ensuite il y aura aucun problème et ton client il sera satisfait. Ouais. Lui, il s'en fout de savoir que t'as mis 1 heure ou que t'as mis 40 heures pour faire le même truc. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat final. Et donc en ça, c'est un excellent moyen de se former. Et puis comme accès à toutes les informations disponibles sur Internet, concrètement, il y a pas grand-chose qu'on peut pas apprendre. Suffit d'y mettre l'envie et d'y mettre le temps, quoi. Et puis du coup, ça me fait penser à l'expression « faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Là, on prend le truc complètement à l'envers. Là, on va d'abord vendre la peau et puis après, on va chercher l'ours parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si... Tu vois. Et puis,
on sait même pas le chasser, l'ours.
Et puis, on sait même pas le chasser, on va apprendre à le chasser après. Et ça, tu le vois avec les business de formation, t'en as plein qui vont commencer à lancer une formation en disant je vends une formation, et puis si j'arrive à faire 20 ventes, je vais créer la formation.
Ouais.
On en voit des tonnes en ce moment, et je pense qu'on peut le faire avec de plus en plus de produits. T'as toutes les précommandes, tous les Ulule, les Kickstarter, c'est le même principe
C'est
aussi.
vrai.
C'est super chouette comme fonctionnement, en fait. T'apprends et puis
Ouais, c'est
t'avances moins de
clair.
coûts.
Et on revient sur ce truc que tu disais sur le marché, que valider qu'il y a un intérêt avant même d'aller faire le travail dans la terre, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, par rapport à ça, dans ces 2 premières années d'expérimentation, c'est à quel moment où tu as l'idée de ton étude que tu créais derrière, qui s'appelle Going Freelance, et tu pourras nous en dire quelques mots avant qu'on rentre dans le concret là-dessus. C'est quoi le switch où à un moment tu te dis ah ouais, c'est hyper intéressant, j'ai envie d'aller creuser sur le marché global, mondial du freelancing?
Il y a plusieurs étapes pour ça, en fait. En fait, c'était un moment donné où, après 2 ans d'école, il y a tout le monde qui va chercher des stages de césure pour pendant 1 an, 2 fois 6 mois. Et donc, les gens cherchaient globalement en audit, en marketing, quelques-uns qui partaient en startup. Il n'y avait pas beaucoup d'expérience entrepreneuriale dans tout ça. J'avais la possibilité de continuer. J'avais déjà fait un premier stage, du coup, dans ma boîte que j'avais à l'époque. Et je voulais pas passer encore 1 an dessus parce que je me disais, c'est un side project. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de faire grossir à 200%. Et il n'y avait pas la possibilité non plus de faire 6 mois de freelance, tu vois, ou 1 an de freelance. Je pouvais pas aller voir mon administration et dire, bah en fait, je vais pas faire de stage, je vais bosser en freelance. Là, j'ai pas de clients, mais je compte bien en trouver d'ici les prochaines semaines. Et je sais pas vraiment comment ça sera supervisé tout ça. Enfin, voilà, c'était pas OK. Par contre, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de me dire, qu'est-ce que je peux faire encore pour apprendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre sur ce sujet du freelancing, sur ce sujet du travail de demain? Comme j'ai pas la moindre idée en fait de ce que j'ai envie de faire plus tard, je vais aller explorer les options qui sont ouvertes. Qu'est-ce qui est possible en fait de faire? Et à cette époque-là, je connaissais pas encore. J'avais entendu parler des boîtes full remote, des entreprises qui te faisaient confiance, et donc par opposition à ce à quoi on est préparé en école de commerce, qui sont les boîtes avec une hiérarchie beaucoup plus verticale, et un rôle de stagiaire hein, sur lequel on t'attend quand tu es en année de césure, du coup. Et donc je me suis dit, ce projet-là, ça a du sens. Et puis j'avais un pote qui était en prépa avec moi avant, qui avait fait à peu près la même chose, lui, mais les baroudeurs de l'innovation managériale sur l'innomanagérial. Il avait fait un tour du monde. En fait, c'est une learning expedition de 6 mois. Ça avait bien fonctionné. Et le modèle de partir à deux, de lever des fonds auprès d'entreprises de ce secteur et de rapporter, un, de la communication et deux, du contenu, des découvertes que tu peux ensuite diffuser. Ça avait été validé, ça. Donc, je m'en suis inspiré pour créer ce projet Going Freelance. Et je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure décision, je pense, que j'ai prise jusqu'ici.
Bah ouais, parce qu'au final, aujourd'hui, ça structure clairement quasiment toute ton activité de freelance depuis, en fait.
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est en rentrant, en publiant le rapport d'études en septembre dernier, que ça m'a donné en fait déjà l'envie de continuer, de me dire, bah j'ai fait un état des lieux jusqu'à maintenant, mais j'ai fait 100 de rencontres, mais potentiellement j'aurais pu en faire 200, 300, et je continue d'en découvrir encore tous les jours, à la fois des entreprises qui ont des bonnes pratiques managériales, mais des outils, des communautés, des façons de travailler, des façons d'envisager le travail aussi. Et puis, au-delà de ça, ça a généré du buzz au moment où c'est sorti. Et donc, il y avait encore une possibilité. J'ai été sollicité à ce moment-là pour faire des interventions d'entreprise sous forme de conférences, pour continuer à écrire sur ce sujet, pour raconter ce que j'avais vu. Et en fait, petit à petit, comme c'était en parallèle de ma dernière année en école de commerce, je me suis dit, bah ça va être du freelance à côté de mes études. Et maintenant, j'ai pas arrêté en fait. Et mes études sont passées complètement même au second plan. Hein. C'était un master qui me laissait assez libre dans mon organisation. Et je passais beaucoup plus de temps sur mes activités de freelance que dans ce master. Et je pense que c'était plutôt une bonne décision parce que c'est plus ces activités-là qui m'éclatent au quotidien et qui me feront vivre les prochaines années que ce master.
Ouais, c'est clair. Ce que je trouve dingue dans cette histoire, en fait, et j'ai envie qu'on appuie dessus pour que les gens se rendent compte, c'est que finalement, t'es même pas encore diplômé, tu fais du freelancing depuis le début de l'école de commerce, et on t'accorde déjà la légitimité d'aller faire des conférences dans des grosses boîtes genre Hermès pour parler de ce que c'est le freelancing. Et je trouve ça fou parce que ça montre vraiment, à mon sens, la nouvelle ère dans laquelle on est, où on n'attribue pas la légitimité à des diplômes, à X années d'expérience sur un sujet, mais plutôt au contenu qu'on a créé et au temps qu'on a investi dans ce genre de recherche. Et je trouve que c'est ultra représentatif de ça, quoi.
Ouais, je suis complètement persuadé que c'est pas le diplôme, c'est pas ce qu'on a, c'est vraiment plus une question de statut maintenant, c'est une question vraiment de projet, de ce que tu as créé toi-même, et c'est avec ça qu'on prouve la légitimité. Tu vois, mes premières missions en freelance, j'ai pu les décrocher parce que j'avais la légitimité d'avoir créé une petite marque de vêtements avant. Et puis ces premières missions de freelance m'ont donné à la fois la confiance personnellement et puis la légitimité aux yeux des autres ensuite pour aller chercher des missions plus grandes que je facturais mieux. Et puis après de créer ce projet-là, effectivement, et c'est en publiant ce rapport d'études que je me suis convaincu, un, déjà que j'avais des connaissances qui étaient monétisables. Il y a quand même 250 pages de contenu, j'ai fait une centaine de rendez-vous et je les ai en tête, donc je sais que ce contenu, il vaut quelque chose. Et au-delà de ça, ça donne la légitimité ensuite aux yeux des autres et effectivement, on peut aller chercher. Et ça, tu vois, potentiellement, c'est que les premières étapes pour aller beaucoup plus loin. Et dans 10 ans, je me serai
C'est
appuyé sur la
clair.
légitimité qui est construite au fur et à mesure. Mais enfin, en tout cas, j'y vais étape par étape. Et je crois pas vraiment, tu vois, à moins de faire un truc qui buzz et tu deviens, je pense pas qu'on devienne une star du jour au lendemain, on devienne un expert sur un sujet du jour au lendemain. C'est vraiment la construction, projet par projet, petit à petit. Et jamais, en fait, quand tu lances un petit truc au début, tu peux t'imaginer jusqu'où ça va aller. Et je pense pas qu'il
C'est
faille
clair.
l'imaginer, en fait. Faut juste se concentrer sur ce qu'on sait faire actuellement, prévoir quelques semaines, voire quelques mois. Et puis ensuite, on voit où ça nous mène.
Et je pense qu'effectivement, tu le dis et je suis preneur, on va rentrer un peu direct dans l'introspection, mais j'imagine que au moment où tu commences à te dire, ouais, je vais faire ce projet, t'as aucune idée de où ça va te mener. Genre là, aujourd'hui, enfin, c'était inenvisageable tout ce qui s'est passé depuis pour toi, quoi,
Ouais,
à ce moment-là.
ah bah exactement, c'était pas du tout envisageable. Moi, ce que je voyais à 1 an, tu vois, je me disais, première étape, j'ai envie de faire ce projet, il faut que je trouve des gens qui vont me suivre, donc il faut que je leur présente quelque chose d'un petit peu sérieux. Donc j'ai commencé à discuter avec une quinzaine de personnes de l'écosystème freelance pour valider le fait qu'il y avait un besoin d'aller chercher de l'information. Moi, mon angle, c'était de dire, il y a beaucoup de contenu qui est créé pour se lancer en tant que freelance, il y en a très peu qui est créé quand une entreprise a envie de commencer à travailler avec des freelances. Et donc, on a pas vraiment d'informations sur la façon dont on peut adapter l'organisation en interne pour accueillir des freelances, d'une bonne façon, parce qu'accueillir des freelances, c'est pas un problème, mais bien les accueillir, ça, c'est autre chose. Il y en a peu qui savent le faire. Et du coup, il y avait peu d'informations là-dessus, donc j'ai validé d'avoir ce besoin-là. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à aller solliciter des entreprises qui étaient dans cette thématique-là, qui étaient intéressés sur ces sujets et qui ont été intéressés effectivement pour qu'on aille chercher de l'information sur ces sujets et qu'on crée du contenu autour de tout ça pour un sujet de communication. Et puis une fois en fait que bon, t'as tes entreprises qui te financent ton projet, qui vont te suivre pendant 6 mois, bon bah maintenant que tu leur as promis que tu allais avoir des reportages, des articles chez Forbes, qu'il allait avoir une tribune dans Madines, que tu allais aller rencontrer Google, aller rencontrer je sais plus qui encore, Dropbox, GitHub, je sais plus ce que j'avais mis, tu vois, sur les plaquettes de démarchage, mais maintenant que tu l'as promis, il faut aller le faire. Donc ensuite, tu vas contacter les gens et là où je m'y attendais pas du tout, par contre, c'est la bienveillance de tous ceux que j'ai contactés. Franchement, ils étaient tous super accueillants. C'est des personnes qui étaient des CEO de grosses boîtes, parfois qui étaient, tu vois, on a rencontré le CEO de Power, qui c'est une boîte qui fait des millions de freelances dans le monde, ils sont côté aux
C'est clair.
US. Il nous a accordé une demi-heure, c'était super chouette. On était chez Google, chez GitLab, chez Dropbox, et c'est que des boîtes que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer. Et en fait, les gens, tu leur envoies un bon email, un bon message LinkedIn, et dans une démarche juste, j'ai envie d'apprendre. On est deux Français, on vient pour explorer le travail de demain. On a l'impression que vous avez un poste qui vous permet de les tester au quotidien. On a l'impression, en tout cas, que vous avez eu telle expérience qu'on aimerait bien découvrir avec vous. Est-ce que vous seriez intéressé pour passer une demi-heure, 1 heure avec nous? Ça serait chouette. Et généralement, ils étaient tous super ouverts et il y a eu un accueil génial.
C'est cool, hein. Franchement, je pense que ce que les gens qui écoutent peuvent retenir, c'est effectivement ce truc de se dire, si t'as envie de développer une pertinence sur un sujet, c'est possible. T'es pas obligé d'aller faire un tour du monde pendant 6 mois comme tu l'as fait pour rencontrer tout le monde, mais se demander, c'est t'as bien explicité les étapes, c'est quoi le besoin que les types de personnes à qui je veux m'adresser peuvent avoir, analyser le marché et se dire qu'est-ce que je peux créer de complètement nouveau, parce qu'effectivement personne n'avait fait ce que t'as fait jusqu'alors, qu'est-ce que je peux créer de complètement nouveau qui va justement apporter des vraies solutions à ces personnes-là et du coup me positionner comme légitime sur ce sujet, quoi. Un des sujets principaux de ton étude Going Freelance, t'en as parlé, c'était comment les entreprises peuvent mieux se structurer pour travailler avec les freelances, les accueillir dans leurs murs, intégrer de nouveaux process et ainsi de suite. Mais avant qu'on rentre dans les trucs très concrets et les apprentissages de ça, parce que je pense que c'est hyper important pour les freelances de comprendre ça, j'aimerais juste qu'on fasse un petit dézoom pour parler des enjeux de qu'est-ce que ça représente pour ces entreprises, le fait qu'il y ait une économie freelance qui se développe de plus en plus. En France, on a dépassé récemment les 1 million de freelances, c'était à fin d'année dernière justement. Qu'est-ce que ça change justement sur le marché du travail? Qu'est-ce que ça change pour les boîtes et les organisations au sens large? Parce qu'il n'y a pas que les entreprises, mais selon ce que tu as appris avec cette étude et ce que tu observes depuis avec ta newsletter notamment, c'est quoi les enjeux concrets et phares pour eux?
Alors, l'enjeu qui est commun à tous les pays qu'on a visités, et ça, c'est vraiment la même chose partout, le premier enjeu, c'est un enjeu de guerre des talents. C'est que le freelance, il rentre par certaines compétences qui sont clés, qui sont globalement les métiers de la tech, mais on a des métiers qui sont pas de la tech, qui sont très spécifiques et pour lesquels il est très difficile de recruter des personnes en CDI aussi, tout simplement parce qu'il y a pas suffisamment de monde. Et du coup, ces personnes-là, quand on cherche une technologie précise, par exemple, si je cherche, je sais pas, rien qu'un data scientist, sans se spécialiser vraiment, mais un data scientist, c'est quand même une compétence qui est difficile de recruter en CDI. En tout cas, t'en as pas des masses sur le marché par rapport à la demande. Et donc, ils sont une situation où ils sont tellement demandés qu'ils n'auraient pas vraiment d'intérêt à rester en CDI. Ils peuvent au contraire choisir les meilleures missions dans des boîtes pour lesquelles ils peuvent être à la fois bien payés et ils peuvent progresser beaucoup plus. C'est des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, ils sont dans une position où c'est eux qui sont chassés par les entreprises, et ils ont tout intérêt à rester freelance plus qu'à être salarié. Et ça, du coup, pour l'entreprise, c'est un changement radical. Parce que avant, tu avais les grandes entreprises qui jouaient simplement sur leur nom et qui se disaient, bah, comme je suis une entreprise du CAC 40, je vais pas avoir tellement de mal à attirer des talents, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, la communication, après, c'est la marque employeur est arrivée ensuite, mais c'était dirigé vers les CDI. Et il n'y a pas vraiment de communication à destination des freelances aujourd'hui. Ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter, donc ils sont obligés de se tourner vers les freelances pour certaines expertises. Et là, pour le coup, ils n'ont pas la capacité de travailler en direct avec eux, donc ils se tournent vers les ESN quand ils veulent faire appel à des experts sur un projet. Mais les ESN, souvent, ils ont aussi du mal à recruter et puis elles sont assez opaques. Donc t'as les plateformes qui rentrent à ce niveau-là, et puis t'as des cabinets de recrutement, t'as des agents aussi de freelance. En tout cas, t'as toute une sorte d'écosystème qui se construit. Puis t'as les communautés, t'as ceux qui veulent travailler en direct, t'as le portage salarial. Et puis tout à côté de ça, t'as tout un ensemble d'outils qui va se créer, qui font qu'il y a, à côté des besoins des entreprises, en fait, t'as l'économie freelance qui émerge et qui se structure et qui petit à petit devient de plus en plus importante. Et il y a certaines compétences où c'est vraiment pas possible de recruter la bonne personne. Ça, c'est le premier sujet. Et le second sujet, c'est une question de flexibilité. C'est que si c'est pas une question de pression, tu peux simplement te dire, bah, dans une période de crise, je vais avoir besoin de pouvoir ajuster mes effectifs. Et mes effets, et donc, et une période de crise, et une période de croissance aussi, hein. Je prends souvent l'exemple d'Ideo, qui est une boîte en Californie, ils sont à peu près 3000, et ils ont 80% de leurs effectifs qui sont salariés et 20% qui sont freelance. Et ça leur permet simplement, alors, pas une question de crise, mais en fonction des projets, des demandes, est-ce qu'il y a plus de projets qui arrivent ou moins de projets qui arrivent, d'ajuster le nombre de personnes. Donc, dans une équipe de 6, ils vont avoir peut-être 4 personnes qui sont tout le temps là, qui sont en CDI, et puis, plus ou moins 2 personnes, plus ou moins, on rajoute 2 autres personnes, on en enlève 2, en fonction des projets qui arrivent et qui viennent. Et ça permet d'avoir une flexibilité pour répondre aux projets, qui est excellente.
C'est clair. Et je pense que c'est intéressant de le comprendre parce que le contre-argument qui peut venir de côté freelance, c'est ah, mais c'est pas du tout sécurisant. On est traité. Tu vois, je crois qu'il y a un mouvement en Amérique qui s'appelle genre Liquid Work ou un truc comme ça, qui est justement la liquéfaction de la main-d'œuvre entre guillemets ou en tout cas des employés qui font le travail concret. Et moi, tu sais, il y a une grande partie de ce que j'ai envie d'apporter, c'est justement de faire en sorte qu'on soit pas en combat les uns contre les autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette discussion de se dire, je suis freelance. Si je comprends mieux les enjeux des entreprises et de pourquoi elles veulent travailler avec des freelances, pourquoi c'est dans leur intérêt, ben je peux mieux répondre à leurs besoins et on peut mieux avancer ensemble sans être dans cette espèce de guéguerre de les clients c'est les mauvais et les clients qui disent c'est les freelances c'est les mauvais parce qu'ils veulent que travailler chez eux, patati patata, quoi.
Ouais, mais ça tu fais bien de le rappeler parce que les problèmes ils viennent des deux côtés. Il y a les entreprises qui sont pas adaptées aux freelances, ça c'est la majorité des cas, c'est tout le temps ça parce que elles sont pensées pour le salariat, parce que plus elles sont grosses, plus elles sont cloisonnées. Du coup, t'as les services des RH, des achats et des opérationnels qui ont du mal à se parler et pourtant il faut une position commune, il faut un consensus ensuite, sinon ça fonctionne pas. Donc ça, t'as ce sujet-là. Et de l'autre côté, en fait, t'as les freelances qui vont se plaindre. Alors, effectivement, parfois ils ont raison de se plaindre. Les délais de paiement, bon, ça rend fou quand t'es payé. Il faut utiliser pareil,
oui.
s'enregistrer au registre. Enfin, moi, quand je bosse avec des grands groupes, à chaque fois pour un grand groupe, pour une prestation, il faut il faut se faire payer. Donc d'abord, pour se faire payer, faut s'enregistrer au registre des fournisseurs. Il faut utiliser un outil qui est super complexe, qui sont gérés normalement par des grosses entreprises qui ont des services qui sont dédiés à ça. T'as vraiment pas que ça à faire en tant que freelance, donc il y a lieu de crier. Mais en même temps, le freelance, il est là aussi pour guider le client. Donc le freelance, il faut évangéliser pour que le client se transforme, mais il faut pas attendre du client qu'il ait forcément le brief parfait dès le départ. C'est aussi au freelance d'être proactif et d'arriver à l'aiguiller, à lui dire, bah en fait, vous m'avez contacté pour ce besoin-là, je pense que ça c'est très bien, mais au-delà de ça, il faut qu'on aille creuser sur ce sujet-là, ça c'est beaucoup plus important. Et avant toute chose, en fait, moi je vais vous recommander tel ami parce que lui, il va vous aider sur ce sujet-là, et une fois qu'il va vous aider sur ce sujet-là, en fait, on pourra avancer sur le nôtre. Et c'est là la force du freelance, c'est là où il va se démarquer, et c'est pour ça qu'il faut pas attendre tout de l'entreprise. L'entreprise, elle sera jamais parfaite dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose qu'on pourra lui reprocher. Effectivement, sur les grosses, il y a vraiment beaucoup de changements à faire. Sur des startups, sur des PME, des ETI, on commence à arriver à des niveaux où elles s'y intéressent, elles arrivent à travailler avec des freelances, et ça se passe de mieux en mieux. En tout cas, même, tu vois, quand j'ai commencé à rencontrer des boîtes donc en 2018-2019 sur ce sujet-là, il y a un progrès qui a été fait en 2 ans, carrément. Et j'ai l'impression que le sujet est beaucoup mieux pris en compte.
C'est clair, je l'observe aussi. Et on reviendra plus précisément sur ce rôle qu'on peut avoir d'éducation, parce que je le trouve hyper important. Mais je voulais juste revenir sur un point de ce que tu disais juste avant, c'est tu parlais de la guerre des talents et qu'aujourd'hui pour les entreprises c'est très difficile sur certains métiers de réussir à recruter des freelances là-dessus, et en même temps j'ai l'impression que la perception qu'ont beaucoup de freelances ou qui est très discutée dans cet écosystème là, c'est j'ai du mal à trouver des missions, j'ai du mal à être staffé, j'arrive pas à trouver de clients, etc., et qu'il y a cette espèce de difficulté de démarrage. Où est-ce que ça bloque, du coup? Est-ce que c'est une question de compétences ou de secteur? Est-ce que c'est une question de visibilité, que les entreprises n'arrivent pas à se connecter avec les freelances qui cherchent? À ton avis, c'est où que ça bloque entre, oui, il y a la guerre des talents et on trouve pas les bons talents, entre guillemets, pour remplir les cases. Et en même temps, il y a les freelances qui ne trouvent pas assez de missions. Ou alors, est-ce que c'est juste du bruit alors que, enfin, voilà, quoi. C'est quoi ton avis sur cette question-là?
C'est très pertinent comme question. Alors, c'est pas juste du bruit, hein. Et effectivement, il y en a plein qui galèrent à trouver des missions. Je pense que c'est les deux raisons que t'as invoquées. La première, effectivement, c'est qu'il y a une question de spécialisation. On parlait de data scientist tout à l'heure, et si t'es data scientist, globalement tu marques tes data scientist sur LinkedIn, tu vas recevoir entre 5 et 10 propositions par semaine facilement pour du CDI, du freelance, pour tout ce que tu veux. Si t'es pas data scientist, t'es pas une compétence qui est extrêmement demandée. Et ben là, c'est ton job de te spécialiser, toi, en tout cas de créer ton image dans une forme de spécialisation qui te permet d'apparaître comme étant le spécialiste, alors pas forcément d'une compétence, mais ça peut être le spécialiste d'un secteur, le spécialiste par rapport à telle communauté, ça peut être le spécialiste, tu vois, si t'es journaliste, tu vas pouvoir te spécialiser dans le journalisme à destination des produits pour enfants, par exemple, et tu vas écrire que là-dessus. Et tu seras pas perçu comme étant un journaliste, mais le journaliste qui écrit sur les produits pour enfants. Et dans ce cas-là, tu pourras commencer à être sollicité. Alors, il faudra solliciter les bonnes personnes, les bons acteurs. Mais il faut s'extraire, en fait, de la masse. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, première chose, c'est effectivement une question de compétence. Et deuxième chose, c'est une question de visibilité. Une fois que tu as choisi ton créneau, c'est la visibilité que tu vas pouvoir avoir dans cet écosystème pour créer du contenu, si tu veux, ou contacter les bonnes personnes. Il y a plusieurs moyens d'obtenir des missions. Et en tout cas, c'est ces deux aspects-là. Ça veut pas dire qu'il faut forcément se spécialiser en tant que freelance dans une compétence et s'enfermer dans quelque chose et faire plus que ça. Tu peux être super large dans toutes les missions que tu vas faire. En revanche, il faut apparaître d'une façon claire face au marché avec une forme de spécialisation qui est pas forcément celle des compétences, mais une forme de, en tout cas, être très très clair face au marché.
Ouais, mais je pense que là où tu touches quelque chose d'intéressant du doigt, c'est quand tu dis il faut s'extraire de la masse.
Ouais.
Et que pour ça, s'ultra spécialiser comme certains le font, c'est une méthode. J'en parlais pas mal dans un épisode de podcast solo justement que j'avais appelé l'injonction de la spécialisation, parce que c'est pas pour tout le monde. Mais effectivement, c'est une manière de le faire. Créer du contenu, c'est une autre manière de s'extraire de la masse. Enfin, je pense que c'est ça la vraie question, c'est de faire se demander comment est-ce que je peux être perçu comme différent et unique sur un sujet via ma création de contenu, etc., pour être identifié par telle typologie de personnes.
Ouais.
Ce qui passe par plein de différents leviers, et il y en a une infinité des stratégies marketing qui fonctionnent pour ça. La spécialisation en étant une, la création de contenu, etc. Tu vois, toi, par exemple, ton étude, ton rapport, c'est ce qui te permet de t'extraire de la masse parce que personne d'autre qui a fait un rapport mondial sur le freelancing. Alors que il y a d'autres personnes qui se positionnent comme étant des porteurs de parole ou des créateurs de contenu sur l'économie freelance, par exemple.
Ouais, exactement. Parce que tu vois, par exemple, moi, et puis souvent les clients, alors quelqu'un qui ne me connaît pas, qui n'a pas lu mon rapport, il va se dire, mais en fait, c'est qui ce type qui débarque avec sa tête à 23 ans et qui va m'expliquer
Ouais.
comment je dois manager? Comment, il a jamais été managé, il a jamais managé qui que ce soit. Comment est-ce qu'il va donner des conseils sur le management, sur l'expérience du travailleur, l'expérience du freelance? Et en fait, je me mets pas en concurrence, moi, avec tous les consultants en management qui ont peut-être 20 ans d'expérience et qui ont transformé les organisations entières. Non, moi, ce que je dis, c'est, je peux vous apporter simplement l'éclairage d'une centaine d'entreprises, de freelance, de communautés, de plateformes qui se sont transformées, que j'ai documenté dans un rapport, que je continue d'écrire sur ce sujet-là depuis un an maintenant. Et moi, ce que je peux vous apporter, c'est vous dire, bah voilà ce qui se fait et ce qui fonctionne ailleurs. Maintenant, on peut réfléchir ensemble à la façon dont on peut l'adapter à votre activité. Et si par exemple, je marquais juste, tu vois, sur LinkedIn, consultant en transformation du travail et que je rentrais directement en concurrence avec tous ceux qui sont positionnés exactement sur ces mots-clés-là et qui ont une expérience bien plus riche que la mienne, jamais j'aurai un seul client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir la diversité et ma singularité. Donc, je pense que quoi qu'on fasse, peu importe son métier, et si on n'a pas la chance d'être dans une expertise qui est déjà naturellement spécialisée, notamment dans la tech, il faut dans tous les cas trouver ce qui nous rend unique, ce qui nous rend singulier, et ce qui, alors singulier aux yeux des clients, hein, parce qu'après on peut faire énormément de choses,
Complètement.
hein, mais singulier en tout cas sur le marché.
Pour aller plus loin sur ton étude et aussi sur s'ancrer dans la réalité qu'on vit aujourd'hui avec la crise qui est passée entre guillemets sanitaire, même si elle n'est pas vraiment passée, mais en tout cas on est déconfiné. Est-ce que ce que tu as observé dans l'étude, dans les enjeux pour les entreprises et aussi tout ce qu'elles ont mis en place, tu penses que ce qu'on a vécu là dans les derniers mois, enfin, quel est l'effet que ça va avoir? Parce que il y a plein d'articles qui tournent en ce moment sur le monde d'après sera freelance, des personnes qui disent que les freelances étaient mieux préparés pour ça et seront mieux préparés pour ce qui vient après, etc. Par rapport à ce que tu as vu dans l'étude, est-ce que tu penses que ça va être amplifié ou au contraire qu'il y aura des mouvements dans le sens inverse? T'as un regard là-dessus?
Ouais, bah écoute, j'ai plus d'interrogations que de réponses, mais enfin j'ai quand même pas mal réfléchi à ces sujets-là. Et alors ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de tendances qui vont dans tous les sens. Et je vois à peu près vers là où ça va aller, mais t'as quand même beaucoup de tendances, même qui sont à contre-courant. Là, typiquement, par exemple, je pense que les freelances étaient mieux préparés que d'autres pour cette période, parce que même si c'est les premiers qui sont touchés, même si les clients vont commencer à couper un petit peu les prestations, ils ont déjà commencé à le faire. Moi, j'ai eu des échos aussi de grosses entreprises qui, pour le coup, allaient compter beaucoup plus en termes de prestataires externes sur les freelances que sur les sociétés, que sur les cabinets, que sur les ESN, parce qu'elles savaient que cette population était déjà plus à risque. Ensuite, ça, c'est la première chose. Et puis surtout, en tant que freelance, bah, tu es habitué à avoir des sources de revenus qui sont différentes, à être dans l'incertitude permanente. Donc je pense que tu es mieux habitué à vivre cet état un petit peu d'incertitude, de stress que tu peux avoir, qu'on a avec le confinement et que tu peux avoir avec la crise sanitaire qui continue.
Et tu penses que, parce que là tu dis que en gros, on est les premiers touchés, et c'est vrai que c'est un truc qui est revenu souvent dans le débat public dans les semaines, mois récents, qui dit que les freelances et les indépendants sont la variable d'ajustement de l'économie, que c'est les premiers qui sont lâchés dans les contrats, etc. Et ça allait avec ce que tu disais aussi tout à l'heure, où ça apporte cette flexibilité aux entreprises, où elles peuvent se dire, OK, période de crise, je vais pouvoir adopter ma charge de travail, mes employés, etc. J'ai pas envie de rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien ou mauvais, mais juste sachant que c'est une réalité, à ton avis, c'est quoi les bonnes démarches pour un indépendant pour se préparer face à cette réalité-là?
Ouais, mais tu fais bien de revenir là-dessus parce que ça c'est pas du tout la bonne vision à avoir, même en tant qu'entreprise, de se dire en fait je recrute des freelances juste parce que ça va me coûter moins cher en termes de masse salariale, je vais pouvoir baisser ma masse salariale, j'aurai moins de cotisations à payer et du coup je pourrai très simplement mettre fin à la mission. C'est pas la bonne vision à avoir et je pense justement quand tu me demandais est-ce que quelles sont les tendances qu'on va avoir dans les prochains mois, je pense que le mauvais réflexe ça va être de dire bah en fait il faut qu'on ait plus de freelance parce que si on a une nouvelle crise, si on a une baisse d'activité, on pourra se débarrasser d'eux facilement. Et c'est globalement ce qui s'est passé en Espagne après la crise de 2008 où tu as eu plein d'entreprises qui ont dit à leurs salariés, bah, en fait, vous avez passé au statut autonomos, qui est l'équivalent du micro-entrepreneur, on pourra vous payer, ce sera moins cher. Et comme ça, on peut continuer de travailler. Et du coup, tu as toute une précarisation du freelancing. Et c'est là où on rentre du coup dans les mauvais côtés du freelancing, qui sont la gig economy, qui sont la précarisation. Et c'est ce qui fait que les entreprises traite mal les freelances. En fait, si elle les considère comme une ressource dont elle peut se débarrasser très facilement, ça fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est apparaître comme unique, apparaître comme indispensable en tant que freelance aux yeux de l'entreprise, et leur faire comprendre qu'on veut pas être une variable d'ajustement, qu'on veut être au contraire la personne la plus spécialisée. Et après, t'adapter à la crise. J'avais écrit sur ce sujet-là pour dire qu'en fait, il fallait proposer des prestations qui soient, alors, dans le confinement, pour continuer à facturer, des prestations qui soient peut-être plus court terme que d'habitude. Avant, tu vas avoir l'habitude de penser le long terme. Et ben là, typiquement, tu vas pouvoir te concentrer sur du très court terme. Si t'es par exemple community manager, t'es habitué à vendre des prestations sur 6 mois de gestion des réseaux sociaux, ben là, c'est pas intéressant pour une entreprise de faire ça. Ce qu'elle veut, c'est réagir sur l'actualité, donc tu vas prendre une prestation de gestion de crise, et là voilà, on va refaire tout votre plan de com en 3 jours pour les 3 prochaines semaines et le prochain mois, pour que vous puissiez réagir de façon adéquate à la crise. Voilà, donc adapter tes prestations.
C'est hyper intéressant, parce que c'est aussi quelque chose que je partageais aux membres de mes programmes et de mes formations, c'était de dire c'est pas parce qu'il y a cette crise que vos clients vont forcément arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est que leurs besoins évoluent, que le contexte change, et que ce que vous faisiez avant, ça n'a plus vraiment de sens avec tout ce qui se passe. Et que du coup, l'enjeu pour eux, c'est de se demander, dans cette posture de se mettre en empathie avec ce que vit l'entreprise et ce que vit les clients, c'est quoi leurs besoins maintenant, comment je peux les soutenir dans ces besoins, et de rebondir là-dessus pour continuer de créer le lien, quoi.
C'est exactement ça. Et après, à plus long terme, je pense qu'on a une tendance qu'on voit encore pas tellement arriver, mais qui risque de faire du bruit dans les prochains mois, c'est que les entreprises, elles vont avoir besoin de se transformer à long terme. Une fois que ça sera passé et qu'on aura passé un petit peu ces premiers moments assez difficiles, il y aura le besoin de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour mieux s'habituer, pour mieux évoluer dans ce monde qui est incertain. Et là, les freelances, pour le coup, ils vont apparaître comme étant un petit peu des héros, parce qu'ils sont habitués déjà à cette incertitude. Et au-delà de ça, ils sont capables de guider en temps de crise l'entreprise. Ils sont disponibles immédiatement, donc... si on ne peut pas revenir tout de suite dans les bureaux et qu'on est un peu plus réticent à avoir du coup des personnes qui sont pas habituées au télétravail, les freelances sont quasiment tous habitués au télétravail, le pratiquent depuis des années. Donc non seulement ils sont disponibles de façon opérationnelle pour démarrer la mission potentiellement demain, mais au-delà de ça, ils peuvent aussi arriver dans une équipe et former une équipe. Et il y a un côté du freelance, j'aime bien appeler ça le freelance abeille, il est pollinisateur, c'est que le freelance, comme il a connu énormément d'expériences, beaucoup plus qu'un salarié, en fait, vu qu'il fait plein de missions dans plein de boîtes différentes, il a connu à la fois différents managements, différentes organisations, et peut-être même différentes expertises techniques. Et ces expertises, en fait, il peut les polliniser ensuite chez ses différents clients et se servir de tout ce qu'il a appris pour donner des bons conseils en interne. Donc, non seulement il va venir dans l'entreprise pour la mission pour laquelle il est sollicité, mais en plus de ça, il va pouvoir apporter beaucoup, beaucoup plus et de façon assez informelle dans le quotidien, dans les interactions qu'il va pouvoir avoir avec les effectifs de l'entreprise. Et ça ne peut fonctionner que s'il y a une bonne expérience. Si le freelance, il se sent à l'aise. Et du coup, d'où l'intérêt de créer une bonne expérience dans l'entreprise pour le freelance et de designer des processus qui font qu'il se sent à l'aise.
Ouais, c'est clair. Je te rejoins super bien ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle d'éducation qu'on peut avoir aussi quand on est freelance, et je pense qu'on la majorité des indépendants n'appuie pas assez là-dessus, parce que c'est clair que avec la diversité de toutes les missions qu'on peut faire, de toutes les personnes qu'on veut rencontrer, de toutes les discussions qu'on peut avoir, ça fait aussi partie de notre bagage, de ce qu'on emmène.
Oui.
Tu vois, moi il y a encore une fois, il y a un truc que j'essaie de partager sur ce sujet-là, c'est que on parle très souvent dans la réflexion de qu'est-ce qu'on apporte et ainsi de suite, de hard skills, donc nos compétences ultra terre à terre concrètes d'outils et de métiers, soft skills qui sont plutôt le comment et l'état d'esprit. Mais moi, je vois une troisième catégorie qui est ce que j'appelle les passive skills. C'est en gros le cumul de toutes tes expériences et de tout ce que t'as vu et de toutes tes discussions et de toutes les personnes que t'as côtoyées, qui sort nécessairement pas dans ton travail et dans ce que tu représentes. Et ça fait partie de ce que tu dis du coup là sur la pollinisation. C'est si tu as travaillé avec 150 startups différentes, et maintenant si tu travailles avec une nouvelle startup qui se lance, forcément tu vas les aider sur ton métier, mais aussi sur la structuration de leur boîte, la priorisation des projets, comment avancer, comment se poser les bonnes questions, etc. C'est nécessaire, quoi.
Exactement. J'aime bien cette notion de passive skills que t'apportes, très 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 chouette, et ça est complètement, c'est ce qui va être valorisé, et c'est ce qui va permettre aux entreprises de se transformer beaucoup plus que ce pourquoi elles vont solliciter les freelances. Et c'est ça la beauté, en fait, du fait de collaborer avec un freelance, c'est que tu vas solliciter pour une mission et il va t'apporter tellement plus qu'en fait tu vas jamais vouloir le lâcher ensuite. Tu vas vouloir maintenir une relation ensuite à long terme avec ce freelance, et c'est ce qui fonctionne en tout cas. Ça a pas tellement d'intérêt pour une entreprise de travailler une seule fois avec un freelance. Si c'est pour une mission ponctuelle, ça coûte cher de, à chaque fois, de rechercher le bon freelance, de commencer à l'onboarder. Ce qui est intéressant, c'est de maintenir le lien. Et un des gros sujets des entreprises, c'est pas tellement d'attirer de nouveaux talents, c'est d'organiser les talents avec lesquels elles collaborent déjà. Et il y a toujours une énorme masse de collaborateurs indépendants qui gravitent autour de l'entreprise. Mais soit ils ont un lien avec une seule personne, soit en fait l'expérience était tellement pourrie qu'ils n'ont pas envie de revenir plus tard, même si la mission en elle-même était intéressante. Et en fait, si l'entreprise arrive tout simplement à garder une trace de chaque collaboration, à organiser les talents qui gravitent autour de l'entreprise, elle a potentiellement un vivier énorme de talents avec lesquels elle peut interagir sur des années et des années, et les freelances vont rester loyaux à cette entreprise.
Ouais, c'est clair. Je me souviens dans une de tes newsletters où tu parlais de ce sujet, justement, tu invitais les entreprises qui lisaient ou d'autres avec qui tu as eu des interactions à inviter les freelances avec qui ils travaillent au pot de départ,
Ouais.
au restaurant ou je sais pas quoi, en tout cas aux événements où les équipes se lient entre elles. C'est parce que c'est pas parce que t'es freelance que du coup tu ne peux pas participer à ça parce que tu fais partie du quotidien de la boîte, quoi.
Ouais, exactement. En fait, c'est un des gros soucis qui font que l'expérience freelance n'est pas la bonne. C'est que les RH, comme ils ont peur de la requalification en salariat, généralement, c'est la raison principale qui est invoquée, ou parce que les RH s'en occupent pas du tout, parce que c'est les achats dans le cas des grands groupes, bah, ils partent du principe que le freelance ne doit pas être intégré à la culture d'entreprise. Et que donc, il va pas, s'il y a un déjeuner d'équipe, il va pas participer, si j'ai un séminaire le week-end, encore moins. Et puis, au-delà de ça, ils vont pouvoir parfois, de temps en temps, avoir des badges séparés, même pas pouvoir accéder aux mêmes endroits. Alors, pour les informations de sécurité, on comprend, mais pour si c'est juste des questions de... Il y a des boîtes dans lesquelles elles séparent vraiment. T'as des pièces où là t'as tous les devs qui codent qui sont free, et puis dans une pièce t'as tous les devs qui sont à CDI, et eux, et par contre, ils ont droit à la machine à café, au baby foot, ils peuvent aller discuter avec les collègues qui sont sales à côté. Ça devrait pas exister, ça n'a aucun sens. T'as pas envie de revenir bosser dans une boîte comme ça en tant que freelance. Donc il y a cet aspect de au quotidien d'avoir une bonne expérience, et puis après t'as tous les aspects pour que administrativement faut que ça coule, faut que ce soit fluide en fait. Il faut que tu sois payé à temps. C'est inenvisageable pour une boîte de payer ses salariés le 10 du mois. Non, si elle a pris l'habitude de les payer le 30, elle va payer le 30 tout le temps. Elle va pas avoir 10 jours de retard. Hein. Et là, je te dis ça sur le coup d'énervement parce que j'ai une facture là qui traîne depuis 39 jours et je relance la boîte. Et la boîte, tu vois, je m'entends très bien avec eux. En plus, ils sont géniaux. J'ai une super expérience avec eux. Mais administrativement, ça m'énerve. Ils me disent on te paiera dans 15 jours. Alors que la facture a déjà 40 jours de retard, et je te dis, mais c'est pas possible, en fait. Alors que c'est une boîte avec laquelle tout se passe bien, tu vois, à côté de ça. Il y a des frictions administratives. Et puis, alors, quand tu es un grand groupe, t'as en plus tout le processus d'inscription au registre des achats qui est terrible.
Ouais, donc je pense, si on résume un peu les différentes choses qu'on se dit là sur ce sujet, ce serait d'aligner davantage l'expérience que peut avoir un salarié dans une boîte et l'expérience que peut avoir un freelance pour qu'il soit plus traité comme partie intégrante des projets en tant que personne, plutôt qu'un statut externe, prestataire, patati patata, quoi.
Exactement. En fait, faut partir du principe que c'est pas une, enfin, c'est, même si c'est considéré comme un achat externe en comptabilité, c'est une personne humaine. Elle a envie de se sentir intégrée, de sentir que son travail est valorisé. Alors, tous les freelances n'ont pas cette même vision. Il y a des freelances qui sont là pour faire leur job, pour partir, pour prendre leur chèque, et ça leur va très bien. Ce qu'il faut, en fait, la clé, c'est vraiment de laisser le choix aux freelances de dire, bah, si toi, t'as envie de participer et d'être intégré à la culture d'entreprise, on a différents temps forts, nous, on t'intègre avec grand plaisir. Si t'as pas envie, c'est pas un problème pour nous, on est OK avec ça. Ouais. Mais en tout cas, faut laisser ce choix-là et pas imposer aux freelances que, bah, on s'éloigne, on fait le minimum, on reste le moins en contact possible parce qu'on a peur de la requalification salariale. Voilà. C'est se cacher derrière des problèmes qui n'existent pas vraiment.
Ouais, c'est clair. Comme tu sais, moi, j'aime toujours me poser la question de où est-ce que moi j'ai du pouvoir plutôt que d'être dans une position et une posture un peu attentiste de ben, j'attends que le marché structure, j'attends que les bonnes organisations puissent faire ça. Je donnais une conférence sur le sujet par rapport à la crise récemment où on ne devrait pas attendre juste les aides de l'État pour sécuriser et faire en sorte que notre activité soit plus résiliente. Mais du coup, je suis curieux de savoir, face à ces constats, pour toi, c'est quoi le rôle que nous, en tant que freelance, au niveau individuel, on peut avoir, genre des actions qu'on peut poser, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance?
Alors, d'un point de vue administratif, déjà, il y a tout simplement, pour balayer ce sujet, le fait de dire, ben voilà, comment moi je fonctionne, je veux être payé à telle date, et si ça fonctionne pas pour vous, de ce point de vue-là, je bosse pas avec vous. Déjà pour leur dire voilà moi comment je fonctionne, voilà je peux avoir un degré de souplesse parce que vous n'êtes pas encore habitué et ça peut arriver une fois mais ça n'arrivera pas deux fois en tout cas. Là, tu vois typiquement cette entreprise, je les ai adorés mais je vais leur dire écoutez si vous voulez qu'on bosse ensemble, vous me paierez au début de la mission à partir de maintenant parce que je sais que vous me payez après. Voilà. Donc ça m'intéresse pas. Donc administrativement il y a ça. Et puis sinon en fait ça va être éduquer tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pouvoir éduquer l'entreprise en apportant le bagage, les passive skills, de pouvoir éduquer l'entreprise en l'aidant à définir son besoin. Le principal problème, je pense, dans toutes les missions, c'est pas le manque de compétences du freelance, c'est la communication qui fonctionne pas. Et la communication, quand elle fonctionne pas, c'est généralement que le besoin a été mal défini, c'est qu'on s'est mal compris au départ. Et alors parfois, ça peut être intentionnel, l'entreprise qui s'est embrouillée, ou le freelance qui s'est embrouillé, mais souvent, c'est juste qu'il y a une sorte de gros quiproquo, et on attend quelque chose de l'autre qui n'arrivera jamais, parce que l'autre n'a pas compris la même chose. Donc, ça, effectivement, c'est un dialogue de sourds. Donc, le rôle du freelance dans tout ça, ça va être d'arriver à clarifier le besoin du client, même si lui, il n'arrive pas à l'exprimer, à lui poser les bonnes questions pour comprendre tout le contexte et pas simplement comprendre ce pourquoi le client sollicitait. Si le client vient et me demande une prestation, moi, je veux comprendre pourquoi il veut cette prestation, qu'est-ce qu'il va en faire, dans quel cadre ça va se passer et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait. Et une fois que j'ai bien compris, là, je peux dire, OK, on parle là-dessus, ou alors je peux l'aider même à trouver le vrai besoin qu'il a. Ça, c'est le rôle du freelance. Et pour ça, le freelance, du coup, bah, il doit être très très clair dans son processus. Moi, j'avais rencontré un freelance dans ce tour du monde qui était spécialisé dans le référencement de produits sur eBay. Donc, c'est déjà très très technique comme truc. C'est déjà assez spécialisé parce qu'il se fait que du référencement sur eBay. Mais il avait un processus. En fait, il était capable. Il avait un métier assez standard qui lui permettait de dire dès le premier contact, voilà comment moi je fonctionne. Nos premiers échanges, ils vont avoir lieu à telle date et à cette étape, on va avoir avancé jusqu'à ce point-là. Et puis ensuite, les prochains échanges, on va aller jusque-là. Et donc, il y avait un plan très 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 précis qui faisait que le client pouvait complètement se projeter, à partir de là, à s'organiser et dire, bah oui, effectivement, c'est de ça dont on a besoin, ou pas forcément, on a besoin d'autre chose. En tout cas, on se comprend dès le départ et on pose tous les termes du contrat. Si c'est flou, si le contrat est pas très délimité, si on dit un petit peu OK à tout, ça fonctionne pas.
Ouais. Là où je te rejoins totalement, c'est que donner cette visibilité-là sur comment ça va se passer, c'est aussi un vecteur de confiance assez fou. Parce que la personne, elle sait, OK, je peux me reposer sur cet indépendant-là qui m'a donné exactement la roadmap, quoi. Je sais comment ça va se passer. Je vois qu'elle sait faire son taf. Je peux me reposer et faire confiance. L'image que j'aime bien dire là-dessus, c'est que en tant que free, on doit un peu être le leader qui revient du futur et qui du coup dit voilà comment ça va se passer et si jamais on a tel problème, voilà comment on réagira, tout ira bien, enfin paver la route quoi.
Exactement, et je pense que c'est là aussi tout à l'heure on parlait de singularité, le fait de sortir de la masse, c'est aussi là que tu sors de la masse. C'est justement quand tu fais ce type d'effort, quand t'es capable, au-delà de faire ton métier, de donner le cadre qui fait que ça va se passer parfaitement, que le client va, au-delà d'avoir son livrable, il va vraiment passer un bon moment, il va avoir une bonne expérience. C'est là où tu fais la différence et que le client va avoir envie à nouveau de te recontacter pour d'autres missions ou de te recommander à d'autres collègues. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est la petite touche que tu peux faire en plus, l'expérience que tu vas offrir.
D'autant plus quand on est mis en concurrence avec des structures qui sont pas capables d'avoir cette flexibilité.
Ouais.
Ça me fait penser à, j'avais travaillé sur un gros projet de stratégie de marque pour un repositionnement pour une startup. Et j'étais en concurrence avec des agences. Et en gros, un des trucs qui a fait une grande différence et qui a fait que j'ai gagné le projet au final, c'est que moi, j'avais intégré dans ma méthodo le fait de venir travailler sur place et genre faire partie de l'équipe. Et je dis, ça fait partie un peu de ma méthodo quand j'arrive à le faire en présentiel, parce que c'est pas toujours le cas. Mais quand je peux le faire en présentiel, genre je leur dis, bah, pour comprendre qui vous êtes et du coup mieux travailler sur l'identité de votre marque, je dois m'immerger dans votre monde. Je peux pas juste vous envoyer un questionnaire et rester dans mes bureaux à distance pour comprendre. Et du coup, eux, ils avaient justement incroyablement apprécié que je leur dise ça fait partie de comment moi je travaille, de venir, de manger, déjeuner avec les membres de l'équipe, de faire des petites interviews avec tout le monde. Et ce qui était cool, c'est que du coup, moi, ça m'a permis de vraiment me sentir faire partie de l'équipe. Je suis parti justement en séminaire pendant un week-end avec eux. Ils m'ont invité à des bars après. Enfin voilà, quoi, je faisais partie de l'expérience. Et ça, c'était fou parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, l'entreprise doit intégrer ça dans sa manière de faire. Mais là, moi, j'avais mis de la clarté sur mon process de travail, c'est de faire comme ça. Et du coup, ils l'ont accepté et ils ont trouvé que c'était super bien. Et j'imagine que s'ils travaillent avec d'autres freelances derrière, bah, ça peut être quelque chose qu'ils leur proposent aussi, quoi.
Ouais, exactement. En fait, ce que j'entends là dans ce que tu me dis, c'est que il faut sortir de l'aspect transactionnel. C'est que tu fais ton devis, tu fais l'administratif, on s'en débarrasse. On fait ça rapidement en début de mission et on sort de l'aspect transactionnel ensuite pour rentrer dans une vraie relation humaine. Et c'est là où on va. Alors,
Complètement.
ça va dépendre forcément de ton métier, mais dans toutes les prestations, tu peux arriver à donner de l'humain. Et c'est là où tu vas te différencier exactement des structures, des agences, d'ESN, en tout cas de petites boîtes. C'est là où même avec un collectif, tu vas pouvoir apporter beaucoup plus qu'une agence et en tout cas un modèle complètement différent et qui, je pense, finira par gagner dans les prochains mois. Et on commence à le voir, il y a beaucoup d'évangélisation sur ce système de collectif. Toi, je sais que c'est un sujet qui te parle énormément
Oui.
et les collectifs, ils existent justement pour apporter à ce trou qu'il y avait, le fait que bah, quand tu passes avec une agence, en fait, bah, c'est opaque parce que d'abord tu commences à parler au commercial avant de parler. Donc il y a deux niveaux d'information entre la personne qui va finalement bosser avec toi. Et alors que le collectif, bah, tu as une relation directe avec tous ceux qui vont travailler et puis ils vont pouvoir passer dans les locaux.
Complètement.
Enfin, bah, je pense que je prêche un convaincu.
Non, mais c'est clair que c'est hyper intéressant là-dessus et encore une fois, ça rejoint complètement ma vision de ce que c'est la relation qu'on doit avoir, qui est une relation d'humain à humain, et que ce qui nous rend durable sur le long terme, c'est justement d'avoir des relations fortes avec nos clients, en fait. Et comme tu dis très bien, sortir de l'aspect, ok, c'est mon client qui me paye et moi je suis son prestataire qui rend un service. Donc je te rejoins carrément sur ça. Je pense que du coup, une réflexion qui me vient en live, c'est que tu vois ce que j'ai fait avec cette boîte-là, c'est un défi supplémentaire d'arriver à le faire en télétravail.
Oui.
Parce qu'en télétravail, je pense ce genre de call comme on fait là, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est traité de manière très productive entre guillemets. C'est tu fais tes réunions quand tu as besoin de parler d'un sujet, sinon tu travailles dans ton coin. Et je pense qu'un des grands défis de ce nouveau mode de travail, et je sais que ça te parle avec Futur du Travail, etc., ce sera ramener l'humain dans ces nouvelles manières de bosser quand on est full remote, par exemple, et qu'on travaille que à distance.
Ouais, tout à fait. C'est exactement et avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a la capacité de ramener de l'humain. Alors, bon, les outils de visio, les outils d'échange, effectivement, mais typiquement entre un email un peu froid ou parler sur Slack et mettre un smiley, déjà tu fais passer de l'émotion. Utiliser la voix et mettre la vidéo quand tu es sur Zoom, tu fais passer de l'émotion. Et tu arrives à retrouver quand même. Alors, on remplacera jamais totalement, et je pense que ça reste super important de pouvoir se voir assez régulièrement quand même dans une mission, même si tu peux bosser à distance. Mais tu as des outils, et puis même pour une réunion, tu vois, là, dernièrement, je me suis mis à utiliser Klaxoon. Et je trouve que l'outil est formidable pour des brainstorming, pour des réunions. Tu retrouves en tout cas ce que tu pourrais avoir autour d'un brainstorming, autour d'une table avec des vrais post-it. Et t'as des outils qui te permettent en tout cas ce futur au revoir de retrouver de l'humanité dans les interactions que tu peux avoir.
Et je pense que ça fait aussi partie des process de travail qu'on peut mettre en place pour ça. Moi, il y a un truc que je fais avec mes clients, par exemple, en début de réunion. On fait un petit tour d'inclusion ou une météo, on l'appelle de plein de différentes manières, mais c'est juste prendre un temps dédié à ça, où on prend des nouvelles sur les gens, plutôt que de rentrer directement sur le projet, quoi. Et ça, rien que ça crée une relation plus approfondie que tu peux avoir en présentiel, mais c'est pas la norme, entre guillemets, à distance.
C'est marrant que tu dis ça me fait penser à une discussion que j'avais avec la Chief Culture Officer de GitLab. Donc GitLab, société full remote, des centaines de salariés dans le monde, sur 30 fuseaux horaires, enfin, c'est dans tous les pays, c'est monstrueux. Et elle disait, bah, en fait, ce qui est très important pour continuer à maintenir le lien à distance et la culture entre des équipes qui potentiellement se sont encore jamais rencontrées parce que tu as des nouveaux recrutements, c'est bah, quand tu vas avoir un meeting et tu vas avoir une petite réunion, et avant de vouloir commencer à rentrer dans le vif du sujet et de se dire bah, on va en fait, avant de se dire que la personne elle est là pour t'apporter telle information et t'as besoin d'avoir tel rendu à la fin, tel livrable à la fin de ce rendez-vous, tu vas prendre 5 minutes juste pour te renseigner sur la personne, comment est-ce qu'elle va, à quel moment de sa journée elle en est. Peut-être tu te réveilles le matin, t'es en pleine forme, et l'autre ça fait déjà 8 heures qu'il travaille au bout du monde, il est fatigué, il en a marre, il a une mauvaise nouvelle, enfin en tout cas. Ouais, exactement, prendre la température, faire la météo de chacun, faire des discussions informelles, juste, et d'autant plus important d'être bienveillant et d'avoir de l'ouverture dans ce contexte-là, parce que on peut mal interpréter quelque chose et on peut avoir l'impression d'être traité un peu comme un robot. Donne-moi ça, je veux juste cette information, et puis après je vais refaire mon truc. Alors qu'en fait, justement, c'est ce qui, chez GitLab, ils se rendaient compte que c'était ces échanges-là et ces 5 premières minutes où ils discutaient qui rendaient la culture d'entreprise palpable à distance. Le fait de se rendre compte qu'en fait on était quand même 400 ou 500 à être super fan du produit, à avoir des vies complètement différentes, un quotidien complètement différent, mais on se retrouvait tous parce qu'on était archi fan du produit, et donc on prenait le temps de discuter, et c'était fascinant.
Et je pense que nous, justement, en tant que freelance, on peut ramener ça et avoir un rôle là-dedans en l'incluant de manière consciente et voulue dans nos process de travail, quoi.
Ouais, c'est aussi ce qui va faire ta singularité et ta différence versus d'autres organisations.
Et on revient à ça. C'est clair, c'est clair. On va arriver du coup sur les questions rituelles de fin de podcast, Sam. La première étant peut-être la plus difficile pour toi, sachant que du coup, ça fait moins de temps que tu es indépendant, mais c'est jusqu'alors, c'est quoi la plus grande galère que tu as eue dans ta vie de freelance et comment tu l'as surmontée? Et je t'invite à en trouver une autre que juste le fait d'être payé 39 jours ou 49 jours plus tard.
Ouais, effectivement. Et puis ça, c'est pas le plus important. C'est un petit souci. Bah, écoute, effectivement, dans ma jeune vie de freelance, j'ai eu la chance de pas avoir énormément de grosses galères. Au contraire, je me suis plutôt, en fait, faut donner un contexte aussi à ça. C'est que je me suis lancé pendant mes études et dans mes études, j'avais la chance d'avoir d'abord mes parents qui me donnait des sous pour vivre au quotidien, qui me payait mes études. Mmh. Donc il y avait un cadre qui était super sécurisant, c'est-à-dire que si je bossais en freelance et que je gagnais des sous, c'était bien. Mais si je gagnais pas de sous, c'était bien aussi.
Ça
ne changeait pas grand-chose en fait. Donc il y a ce cadre qui fait que j'ai pas énormément de pression dans ma vie de freelance. Donc j'ai pas eu de galères majeures. J'ai eu beaucoup plus de galères dans ma vie entrepreneuriale que dans la vie de freelance. Donc je te dirais, tu vois, il y a toujours des clients qui peuvent avoir à un moment donné le retard de paiement ou la relation qui se passe mal, mais globalement j'ai la chance d'avoir des clients cool avec lesquels je bosse sur plutôt du long terme. C'est rarement du one shot, au contraire on bosse sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis ça revient, ça s'arrête, ça recommence. Mais ouais. Je suis désolé, je vais pas avoir de grosses galères à te raconter.
C'est pas grave. On devra refaire l'épisode quand on aura eu.
Ouais, c'est possible, ça arrivera forcément, hein, je suis pas à l'abri.
Sur les prochaines questions, en tout cas, je suis sûr que tu vas être inspiré. La seconde question rituelle de fin, c'est encore une fois sur ta jeune vie de freelance, mais si tu étais face à Samuel, c'est son tout premier jour où il se lance, suite à le fait de te dire « Ah tiens, je pourrais faire ça à côté de mes études », c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à l'époque ? À toi-même.
Je pense que dès le départ, le meilleur conseil que je me donnerais, ça serait de encore plus rapidement contacter d'autres personnes plus expérimentées que moi, trouver un mentor. Et au-delà d'un mentor, m'entourer d'un cercle de personnes que j'admire, qui sont dans une direction qui me convient moi, pour leur poser toutes les questions et pour avancer beaucoup plus vite. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. C'est là où j'apprends le plus. Et ça, je l'ai fait, mais j'aurais pu le faire plus tôt. Et sinon, de façon plus pragmatique, c'était aussi augmenter mes tarifs. Au début, je me vendais vraiment... C'était scandaleux, hein. C'était impressionnant. C'était pas cher, quoi. Il y en a qui se sont régalés à l'époque. Il y en a qui sont... Ouais, on commence tous par là, mais c'est difficile. Après, c'est une question de légitimité aussi. Tu vois, quand je commençais, je me sentais pas légitime pour facturer ce que je fais aujourd'hui. Et la légitimité, elle s'est construite au fur et à mesure. C'est logique, hein. Mais avec du recul, je me dirais, tu aurais quand même pu facturer deux ou trois fois ce que tu as fait pour commencer. Ça aurait été un prix raisonnable, en tout cas dans le marché.
Du coup, juste avant qu'on passe à la suite, je suis curieux, est-ce que tu peux nous partager comment tu structures aujourd'hui cette relation de mentorat, ça m'intéresse?
Oui, alors il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées, notamment avec Going Freelance au départ, qui peuvent être aux États-Unis, qui peuvent être en Europe, avec lesquelles je reste en contact. À la fois pour faire de la veille, parce que on n'a pas un temps infini, et donc j'ai une vingtaine de personnes que je suis et dont je lis tous les contenus, et c'est là où je peux me former, et puis des échanges en one-one où on va échanger de manière plus informelle assez régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Donc c'est pas quelque chose, tu vois, où on va dire allez, on se fait un appel toutes les deux semaines à telle heure et c'est cadré. Et finalement c'est plus une relation d'amitié qui se crée, et après il y a une ou deux personnes, et je pense notamment à une avec qui j'échange quasiment au quotidien et qui est d'excellents conseils. Et c'est là où j'apprends beaucoup plus, en fait. Dans une relation qui, tu vois, on a pensé faire une relation de mentorat, mais finalement, je vois pas vraiment comment le mentorat peut exister en dehors de l'amitié. C'est juste qu'au bout d'un moment, t'admires une personne, tu parles énormément avec. Et puis après, ça va dans les deux sens aussi. C'est un échange qui est réciproque. Et en tout cas, c'est dans ces échanges-là que tu apprends le plus. J'encourage n'importe qui, et moi le premier, moi il y a 5 ans, à avoir développé ces relations-là beaucoup plus tôt, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on avance beaucoup plus.
Ouais, c'est clair, et ça rejoint plein d'apprentissages, plein de choses qui viennent du coaching et qui disent en gros, quand tu as une problématique ou quelque chose que tu as envie de réussir à faire, trouve quelqu'un qui l'a fait et modèle la manière dont il y arrivait,
Oui.
autant dans les actions, mais que dans aussi le processus de réflexion, les questions qui se posent, toutes ces choses-là. Et je sais que c'est quelque chose que tu fais justement avec ces personnes que tu considères comme mentors. Donc merci pour ton partage là-dessus. La dernière question du coup, qui est bien sûr ma préférée, c'est si tu as une question à poser à nos auditeurs pour que cette semaine ils prennent un vrai temps pour réfléchir à leur activité et eux-mêmes, c'est quoi cette question?
Une question que j'aime bien me poser, et je pense que j'aimerais bien poser aux autres aussi, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin et qu'est-ce qui fait que t'as pas envie de te coucher le soir? Moi, je me projette pas tellement dans plusieurs années de me dire je serai comme ça dans 5 ans, je serai comme ça dans 10 ans, ou j'ai envie qu'on retienne ça 2 mois plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis au quotidien. Et donc, de trouver qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait que le matin, on a la pêche quand on se lève et on sait que ça va être une trop bonne journée. On a trop hâte, en tout cas. Quand on est dans ce lit, on ouvre les yeux et première chose à laquelle on pense. Et puis pareil le soir, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de se coucher, on a envie que la journée continue, parce qu'on est encore motivé, on a trop hâte d'être le lendemain. Et alors ça peut être, c'est pas forcément une seule chose, hein, ça peut être un ensemble de petites choses, de petites actions, de petits moments dans la journée, et c'est pas forcément lié à son travail d'ailleurs, hein. Ça peut être plein de choses. Mais une fois qu'on les a trouvées, ensuite, bah, on n'a plus qu'à les mettre en action tous les jours. Et puis a priori, on est heureux, quoi.
A priori, à s'organiser pour ça, en tout cas, je
Ça fait un
trouve.
peu fleur bleue quand on le dit comme ça, mais
Non,
je trouve
mais
que cette question est
je te
intéressante.
rejoins. Je la trouve top, et effectivement, c'est cool que t'aies précisé que c'est pas forcément sur du travail, parce que souvent, ce grand discours-là de suivre ta passion, fais ce que tu aimes au quotidien, etc., et créer un business autour, je trouve que c'est un peu important et intéressant de se demander, si ces choses-là ne sont pas dans mon travail, c'est pas grave. Mais comment est-ce que je peux mettre mon travail et mon activité quand je suis freelance au service du fait de vivre davantage ça, quoi?
Exactement. Exactement. Une action toute bête que j'adore. Là, je vis à Grenoble en ce moment. Je suis entouré de montagnes. Je pourrais passer des heures à contempler les montagnes sur mon balcon. Donc, l'action toute bête que je m'oblige à faire tous les jours, parce que je sais qu'elle va me faire du bien, c'est d'aller me poser sur la terrasse et regarder au moins 5 minutes les montagnes, en me réveillant ou en allant me coucher. Et c'est ce genre de petites actions. Et si t'en trouves une petite dizaine de petits trucs comme ça dans la journée qui vont ponctuer ta journée, qui font que globalement, bah, tu sais que ça va être une bonne journée, même s'il y aura des hauts, des bas,
Tout ira bien, quoi.
tout ira bien, ça
Trop
va bien se
bien.
passer.
Merci pour ce partage, Samuel. J'espère que d'autres personnes pourront profiter de vues tout aussi belles que les montagnes de Grenoble.
Ah, je le souhaite à tout le monde.
Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, malheureusement. Où est-ce que j'envoie les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur toi, échanger avec toi directement? Je mettrai de toute façon les liens vers ton étude et les choses dont on a parlé dans l'épisode, mais si les gens veulent en savoir plus et discuter avec toi, où est-ce que je les envoie?
Pour discuter avec moi, le mieux, c'est sur LinkedIn. Je réponds assez rapidement. Et sinon, pour en savoir plus, il y a mon site, going-freelance.com, où il y a le blog, il y a tout. Et là où j'écris le plus, c'est sur ma newsletter, le billet du futur, sur Substack, l'outil plébiscité maintenant pour les newsletters. Et c'est là où je suis plus actif, où il y a tous mes liens. Et je vous encourage à vous abonner.
Je vous encourage aussi à vous abonner. Ça fait partie des rares newsletters que je lis, parce que je suis pas un énorme consommateur de newsletters, mais ça en fait partie de celles que je
C'est sympa, ça, Thomas.
Et écoute, un grand merci à toi, Samuel, pour cette discussion. Et de toute façon, on va se retrouver bientôt pour faire d'autres choses, c'est sûr et certain. Mais d'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, Thomas. Belle journée. Salut.
Ciao, bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Personnellement, j'ai adoré la manière dont, avec Samuel, on a pu observer le marché du freelancing, entre guillemets, avec un peu plus de recul que d'habitude, et de se poser des questions plus macro sur l'évolution des choses, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché, et aussi comment nous, indépendants, et nos clients, que ce soit des grosses entreprises ou des plus petites, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour améliorer l'expérience de tout le monde dans ces relations entre freelance, client, entreprise, freelance, plutôt que de tomber dans le biais qu'on voit très souvent sur les réseaux ou en ligne et de dire non mais c'est la faute des clients ou non mais les freelances ils sont chiants, ils veulent que travailler chez eux, ils veulent pas travailler sur place, enfin bref, toujours de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceux des autres côtés, de l'autre côté. Et j'ai adoré qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut travailler ensemble plutôt que de se tirer dessus. Si l'épisode t'a plu, pour soutenir le podcast, ce que je t'invite à faire, et c'est ce qui me ferait beaucoup de plaisir, je te remercierai pour ça, c'est de laisser une note au podcast de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ton application favorite, mais aussi de t'abonner à ma newsletter où je partage chaque semaine, tous les jeudis matins, du contenu de fond sur la vie de freelance, tout ce qui se passe à l'intérieur de la vie de freelance, mais aussi, bien sûr, des conseils pour développer ton activité, pour qu'elle soit plus sur mesure pour toi, et évidemment, qu'elle grandisse et que tu connaisses la réussite que tu veux atteindre pour toi. Tu peux du coup la rejoindre sur www.thomasburbidge.com/newsletter. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, je te dis à bientôt du coup par mail, et on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.